Chapitre 16. Instruit quant à la pensée de Christ. En méditant les dernières paroles du Seigneur Jésus, rapportées au chapitre 13 à 16, souvenons-nous toujours que le Seigneur a en vue de préparer les siens à rendre témoignage de lui ici-bas où il a été rejeté, pendant le temps de son absence. Pour l'accomplissement de ce grand propos, nous avons vu, dans les entretiens précédents, la nécessité d'avoir les pieds lavés, chapitre 13, le cœur consolé et attaché aux personnes divines, chapitre 14, ainsi que de manifester dans nos vies le caractère de Christ et d'ouvrir nos bouches pour rendre témoignage pour lui, chapitre 15. Enfin, dans ce dernier entretien, nous sommes instruits afin de pouvoir rendre un service intelligent et ne pas nous laisser arrêter par le traitement que pourra nous réserver un monde qui, tout en étant religieux, rejette Christ. Le grand objet, à la base de ce dernier entretien, est de nous instruire dans la pensée de Christ. Il peut y avoir, dans le service du Seigneur, beaucoup de zèle, mais non selon la connaissance, et, par conséquent, peu de résultats et de nombreuses déceptions. Combien il importe donc d'avoir la pensée du Seigneur ? L'instruction de cet entretien est présentée dans l'ordre suivant. Premièrement, versets 1 à 4, nous sommes prévenus du traitement que le monde religieux fera subir à ceux qui rendent témoignage à Christ. Deuxièmement, versets 5 à 7, nous apprenons que pour être rendu intelligent dans la pensée de Christ, il faut que lui s'en aille au Père et que le Consolateur vienne. Troisièmement, versets 8 à 11, lorsque l'Esprit sera venu, les croyants seront enseignés quant au vrai caractère de ce présent siècle mauvais. Quatrièmement, versets 12 à 15, par le Saint-Esprit, les croyants sont amenés à la connaissance d'un autre monde, le monde à venir. Enfin, versets 16 à 33, les croyants sont instruits quant au vrai caractère du jour nouveau qui allait poindre. Versets 1 à 4, la persécution de la part du monde religieux. Citation de l'Écriture. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que, quand l'heure sera venue, ils vous souviennent que moi je vous les ai dites, et je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement, parce que j'étais avec vous. » Fin de citation. Dans le discours précédent, le Seigneur avait placé devant ses disciples les caractéristiques de la nouvelle compagnie chrétienne, dont le privilège serait de porter du fruit pour le Père et de rendre témoignage à Christ dans un monde duquel il est absent. Mais ceux qui, en quelque mesure, portent le caractère de Christ et lui rendent témoignage dans un monde qui le hait, auront certainement à rencontrer quelque chose des souffrances et des persécutions qui sont placées devant nous dans les premiers versets de ce chapitre. Dans son amour tendre et prévenant, anticipant les souffrances des siens, le Seigneur leur donne cet avertissement plein d'amour, de peur que, lorsque la persécution se manifesterait, ils ne soient scandalisés. Sans cet avertissement, des préjugés naturels, forgés par leur lien avec la dispensation qui se terminait, ainsi que leur ignorance de l'ère nouvelle, chrétienne, qui allait poindre, pourraient devenir une occasion de chute lorsqu'ils rencontreraient la persécution. L'histoire subséquente des disciples prouvera combien cet avertissement était nécessaire. Jean le Baptiseur, en son temps, a été bien près d'être scandalisé. Sa foi fut mise à rude épreuve par le traitement si contraire à ses pensées qui a été sa part. À la suite de son fidèle témoignage, il se trouve en prison, et, ne connaissant pas la pensée du Seigneur, il lui envoie ce message « Es-tu celui qui vient ?» Il reçoit la réponse suivante « Bienheureux et quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. » C'était à ce danger que les disciples étaient confrontés. Plein du faux espoir de la délivrance immédiate d'Israël, il n'était guère préparé à être persécuté par Israël. Leurs fausses espérances les exposaient au danger d'être scandalisés. L'avertissement du Seigneur les prépare non seulement à la persécution, mais à la persécution religieuse. Les disciples de Christ seraient exclus des synagogues, ce qui entraînerait la perte de toute communion que ce soit dans le cercle familial, social ou politique. Chapitre 9, verset 22. Cette persécution religieuse procéderait de motifs religieux. Quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Aussi, plus la sincérité serait grande, plus la persécution deviendrait impitoyable. Mais elle résulterait de ce qu'ils n'ont connu ni le Père ni le Fils. Il en a été ainsi de toute forme de persécution religieuse. On a dit très justement, comme il en a été des Juifs qui ont persécuté les chrétiens, ainsi en fut-il des chrétiens qui ont persécuté les chrétiens. Des choses ont été faites pour la gloire de Dieu et au nom de Christ, au sujet desquelles celui qui regarde des cieux pouvait seulement dire « Ils n'ont connu ni le Père ni moi ». Dans les jours à venir, la persécution deviendrait une occasion pour les disciples de se souvenir des paroles du Seigneur et d'être consolés dans leur cœur en réalisant d'une façon nouvelle que, dans son omniscience, il savait tout d'avance et que, dans son amour, il les avait avertis. Jusqu'ici, la nécessité de parler de ces choses ne s'était pas présentée, du fait que le Seigneur était là pour les protéger et les garder. Ces choses appartenaient au temps de son absence, non à celui de sa présence. Versets 5 à 7. La nécessité du départ de Christ. Citation de l'Écriture. Mais maintenant, je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Fin de citation. Mais si les disciples devaient être instruits quant à la pensée du Seigneur, il était nécessaire que lui s'en aille et que le Consolateur vienne. Le Seigneur reconnaissait l'affection qu'il lui portait et, dans sa tendresse, il sympathisait à la tristesse qui remplissait leur cœur à la pensée qu'il allait les quitter. Néanmoins, connaissant le bénéfice immense qu'il retirerait de la venue de l'Esprit, il peut dire « Il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. » Nous sommes peut-être lents à réaliser l'immense bénédiction pour nous et la gloire pour Christ qui découle de la présence de l'Esprit. Mais quand nous voyons la valeur infinie que le Seigneur reconnaissait au don de l'Esprit, le prix que nous lui attachons devrait augmenter. Certes, combien précieuse doit avoir été la compagnie du Seigneur quand il marchait sur la terre. Quelle bénédiction de voir ses œuvres de puissance et d'entendre ses paroles d'amour, de contempler ses perfections et d'expérimenter ses soins. Et pourtant, son départ serait un grand gain. Car, par la venue de l'Esprit, les croyants peuvent être amenés à une connaissance encore plus profonde de Christ, à une appréciation plus riche de ses perfections, et, par-dessus tout, à la découverte d'un Christ exalté comme homme dans la gloire. Connaître par l'Esprit Christ dans la gloire est une bénédiction infiniment plus grande que connaître Christ sur la terre selon la chair. Cela implique l'union avec un Christ ressuscité, impossible quand il était présent dans le monde. L'union avec un homme dans le ciel est une bénédiction bien supérieure à la compagnie d'un homme sur la terre. Pourtant, la tristesse présente des disciples à la pensée de perdre le Seigneur leur cachait la bénédiction que Dieu avait en réserve pour eux au travers de cette tristesse. Nous pouvons tirer de ce qui précède un principe d'une vaste application. La préoccupation au sujet de circonstances présentes nous cache les desseins de Dieu pour une bénédiction future qu'il opère par le moyen de situations pénibles. La tristesse qui, à ce moment-là, remplissait les disciples, voilait à leurs yeux le grand fait que, par son départ, le Seigneur allait ouvrir la voie au développement de tous les vastes conseils de Dieu pour la gloire de Christ et la bénédiction des siens. Il en est souvent ainsi de nous-mêmes. Accablés par quelque situation douloureuse présente, nous ne voyons pas la bénédiction et l'enrichissement spirituel que Dieu s'est proposé de nous donner au travers de ces circonstances mêmes. Nous oublions le verset qui dit « Dans la détresse, tu m'as mis au large. » Psaume 4, verset 1. Versets 8 à 11. Le monde actuel mis à découvert. Citation de l'Écriture. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Fin de citation. À partir de cet endroit du discours, le Seigneur revient à l'instruction des deux derniers versets du chapitre 15, en relation avec la venue du Saint-Esprit. Dans les versets intermédiaires, le Seigneur avait parlé du témoignage que rendraient les disciples et de la persécution qui en résulterait. Il reprend ce grand thème par les mots « quand celui-là sera venu », une expression que nous avons déjà rencontrée au chapitre 15, verset 26, et que nous retrouverons au chapitre 16, verset 13. Dans chacun des cas, elle marque une nouvelle étape dans l'instruction. Au chapitre 16, verset 8, la venue du Saint-Esprit démontre le vrai caractère du monde. Au verset 13, le Saint-Esprit vient pour guider le croyant dans la vérité d'un autre monde. Avant que cet autre monde soit révélé, le vrai caractère de celui dans lequel nous vivons est exposé, et ainsi nous lisons « Quand celui-là sera venu, il convaincra le monde, dans le sens « il sera la démonstration » de péché, de justice et de jugement. » La question de savoir qui reçoit la démonstration n'est pas soulevée. Seul est posé le fait que la présence du Saint-Esprit démontre le vrai caractère du monde. En réalité, ce n'est pas le monde comme tel qui reçoit la démonstration, mais ceux en qui l'Esprit demeure, bien qu'ils se servent de ce qu'ils ont appris pour rendre témoignage au monde de sa vraie condition. La présence de l'Esprit ne met pas le monde à l'épreuve. Le monde a été pleinement éprouvé par la présence de Christ. Il a été ici-bas d'une manière telle que le monde pouvait voir ses œuvres de grâce et entendre ses paroles d'amour. Et le Seigneur résume le résultat de cette mise à l'épreuve en disant « Ils ont et vu, et haï, et moi, et mon Père. » Quand l'Esprit viendra, le monde ne pourra pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais aux croyants, ceux en qui il habite, il démontre le résultat de la mise à l'épreuve afin que, instruits par l'Esprit, ils n'aient pas une fausse conception du monde. Par l'enseignement de l'Esprit, ils connaissent le vrai caractère du monde tel que Dieu le voit. Son caractère est démontré quant au péché, à la justice et au jugement. Cette conviction est opérée dans l'âme, non par l'emploi de déclarations abstraites, mais par référence au Seigneur Jésus et aux grands faits de son histoire. D'abord, l'état du monde est prouvé à l'égard du péché. La présence de l'Esprit est, en elle-même, une preuve du mauvais état du monde, car si Christ n'avait pas été rejeté, le Saint-Esprit ne serait pas là. Sa présence est une preuve que le monde a haï, rejeté et crucifié le Fils de Dieu. Représentant le monde religieux et le monde politique, juifs et gentils se sont unis pour dire « Hôte, hôte, crucifie-le !» Il s'agit donc d'un monde qui ne croit pas en Christ et ce fait solennel prouve qu'il est sous le péché. On pourrait comprendre que le monde ne croit pas en n'importe qui d'autre. Mais si le monde ne croit pas en Christ, un homme en qui il n'a rien pu trouver à reprendre, il prouve d'une manière évidente qu'il doit être gouverné par un principe mauvais que Dieu appelle « péché ». La démonstration finale et absolue que le monde est sous le péché ne se trouve pas en ce que les hommes ont transgressé certaines lois de Dieu ou souillé le temple et lapidé les prophètes. Mais elle est vue en ce que, lorsque Dieu a été manifesté ici-bas en toute grâce, amour, puissance et bonté en faveur de l'homme coupable, dans la personne de son Fils venu en chair et demeurant au milieu des hommes, le monde a définitivement et formellement rejeté Dieu en refusant de croire en son Fils. Voilà le fait déterminant qui est la démonstration du péché du monde. Le monde peut parfois paraître beau extérieurement. il peut faire des progrès dans la civilisation et les inventions, le fait demeure, la présence du Saint-Esprit prouve que c'est un monde qui ne croit pas en Christ et, par conséquent, un monde sous le péché. Deuxièmement, la mauvaise condition du monde est prouvée quant à la justice. La présence de l'Esprit prouve non seulement que Christ a quitté le monde, mais aussi qu'il a été reçu dans la gloire. Si l'absence de Christ est la plus grande preuve du péché, sa présence dans la gloire est l'expression la plus élevée de la justice. Le péché des hommes a atteint son point culminant quand le monde a placé sur la croix celui qui était sans péché. La justice est vue d'une part en ce que Christ, qui a été cloué sur la croix, est retourné auprès du Père, et d'autre part, en ce que le monde comme tel ne le verra plus. C'est absolument juste qu'il ait la place la plus élevée dans la gloire. C'est absolument juste que le monde qui l'a vu et l'a haï sans cause ne le voit plus. Il est ainsi démontré que le monde est sous le péché et sans justice. Troisièmement, l'Esprit convainc de jugement parce que le chef de ce monde est jugé. Derrière le péché de l'homme se cache la ruse de Satan. L'homme n'est que l'instrument du diable. Dieu s'est proposé d'établir Christ à la place de puissance suprême dans l'univers. Le diable a entrepris de contrecarrer le dessein de Dieu et, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix du calvaire, il s'est servi de l'homme comme instrument pour exécuter ses plans. À la croix, le diable a semblé triompher, car là, en se servant de l'homme, il a réussi à clouer sur la croix infâme celui-même que Dieu a destiné à un trône de gloire. Mais la présence de l'Esprit démontre que, malgré tout ce qu'a fait le monde, poussé par son chef, Christ occupe la place la plus élevée dans la gloire. Dieu a triomphé du péché de l'homme et de la puissance du diable. La position de gloire dans laquelle Christ est établi apporte la preuve que le diable a été défait dans l'expression la plus grande de sa puissance. Cela annonce nécessairement le jugement final et absolu du diable. Et si le diable est jugé, tout le système du monde dont il est le chef viendra sous le jugement. Le jugement n'est pas encore exécuté, mais moralement, le monde est déjà condamné avec son chef. Tel est donc l'état du monde aux yeux de Dieu, constaté par la présence de l'Esprit. C'est un monde sous le péché, sans justice et allant au-devant du jugement. Versets 12 à 15. Le monde à venir révélé. Citation de l'Écriture. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Fin de citation. Laissant le monde actuel, le Seigneur passe, en pensée, dans une région au sujet de laquelle il a beaucoup de choses à dire, bien que, pour le moment, cela dépasse la compréhension des disciples. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il annoncera aux disciples les choses qui vont arriver. Il vous conduira dans toute la vérité. Afin d'être des témoins fidèles pour Christ dans ce monde, il ne suffit pas de connaître le vrai caractère du présent siècle. Il nous faut aussi avoir la lumière d'un autre monde pour guider nos pas au travers de ce monde de ténèbres. Mais si l'Esprit met en lumière les gloires du monde à venir, il n'en assure pas la manifestation effective. Christ lui-même, à son retour, manifestera ces choses glorieuses. Par l'Esprit, la foi marche dans la lumière présente de gloire future. L'étoile du matin se lève dans nos cœurs avant que le soleil de justice ne brille sur le monde. En outre, le Seigneur ne suggère pas que la venue de l'Esprit de vérité changerait le cours du monde actuel. Sa présence condamne le monde, son enseignement délivre les croyants des choses présentes en leur donnant la lumière des choses à venir. Hélas, beaucoup cherchent à se servir du christianisme pour améliorer ce monde, Mais il ne tarde pas à découvrir que de tels efforts ne mènent qu'à corrompre le christianisme et à recouvrir le mal de ce monde d'un vernis religieux. Le Seigneur ne suggère pas non plus que la venue de l'Esprit assurerait le bien-être et la prospérité terrestre des siens pendant la traversée de ce monde. Parmi ceux qui appartiennent au Seigneur, il existe souvent de grandes différences quant à leurs circonstances et à leur niveau social ici-bas, mais, lorsqu'il s'agit des vraies richesses du monde des conseils du Père, ils se trouvent sur un même terrain. La lumière présente de cet univers de gloire est la portion de tous les saints. Quelles que soient nos circonstances dans cette vie, il nous est au moins donné la possibilité de connaître et de goûter, en esprit, les gloires plus grandes et éternelles du monde à venir, dans lequel nous allons, dans si peu de temps, entrer de fait. Afin que nos cœurs soient transportés dans ce monde nouveau, nous lisons que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Par la puissance du Saint-Esprit, nous disposons de la vérité dans toute son étendue quant aux propos de Dieu, à la gloire de Christ dans l'Église, à la bénédiction de l'Église avec Christ et à la bénédiction des hommes dans le royaume pendant tout le millénium et jusqu'aux gloires du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Dans cette vaste sphère de vérité, l'Esprit nous conduira. Mais il ne nous forcera pas, ni ne nous poussera. Pour chacun se pose la question adressée autrefois à Rebecca : iras-tu ? Le serviteur était là, prêt à la conduire vers Isaac, comme l'Esprit est venu pour nous conduire à Christ. Le serviteur pouvait dire « Ne me retardez point, et que je m'en aille vers mon Seigneur. » Et ne sommes-nous pas autorisés à dire que le désir du Saint-Esprit est, non pas d'améliorer ce monde, ou d'établir les saints sur cette scène, mais de retourner auprès de celui qui l'a envoyé, emmenant avec lui l'épouse vers Christ ? Hélas, nous retardons souvent le Saint-Esprit, en nous détournant dans un chemin de notre propre choix et nous perdons alors la direction du Saint-Esprit. Un engagement mondain ou quelques fausses associations religieuses peuvent nous retenir. Et jusqu'à ce que nous en soyons libérés, l'Esprit cessera de nous conduire plus avant dans la vérité. Les chrétiens semblent peu se douter combien facilement les progrès de l'âme dans la vérité peuvent être empêchés par des associations qui ne sont pas selon la parole. Non seulement le Seigneur dit que l'Esprit conduira, mais trois fois il dit « Il vous annoncera » (versets 13, 14 et 15). Nous ne pouvons pas nous conduire nous-mêmes dans toute la vérité. Nous ne pouvons pas nous annoncer à nous-mêmes les choses qui vont arriver ou les choses qui concernent Christ. Nous sommes complètement dépendants de l'Esprit. Combien alors il importe de refuser, à tout prix, ce qui empêcherait l'Esprit de nous conduire dans la plénitude de la bénédiction ? Le Seigneur nous indique très clairement le triple caractère de la bénédiction dans laquelle le Saint-Esprit nous conduira. D'abord, le verset 13 parle « des choses qui vont arriver ». Puis, au verset 14, nous avons les gloires de Christ. Enfin, au verset 15, il s'agit de tout ce qu'a le Père. Voilà les choses dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous conduire, si nous ne l'empêchons pas. Il déroulera devant nous toute la félicité du monde à venir. Il prendra les gloires de Christ et nous les annoncera. Il nous découvrira toute l'étendue des conseils du Père qui ont Christ pour centre. Puissions-nous réaliser plus pleinement qu'il existe un monde de félicité entièrement en dehors de la sphère de la vue naturelle et au-delà des limites de l'esprit humain, des choses dont il est dit « ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme » ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Versets 16 à 33. Le jour nouveau. Citation de l'Écriture. Un peu de temps, et vous ne me verrez pas. Et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Quelques-uns donc d'entre ses disciples se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci qu'il nous dit ? Un peu de temps, et vous ne me verrez pas ?» Et encore un peu de temps, et vous me verrez, et, parce que je m'en vais au Père. Il disait donc, qu'est-ce que ceci qu'il dit, un peu de temps ? Nous ne savons ce qu'il dit. Jésus donc savait qu'il voulait l'interroger, et il leur dit, vous vous enquérez entre vous touchant ceci que j'ai dit, un peu de temps, et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous dis, que vous, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Et vous, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais après qu'elle a donné le jour à l'enfant, il ne lui souvient plus de son angoisse, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et vous donc, vous avez maintenant de la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôte votre joie. Et en ce jour-là, vous ne me ferez pas de demande. En vérité, je vous dis, que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Je vous ai dit ces choses par des similitudes. L'heure vient que je ne vous parlerai plus par similitudes, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je ferai des demandes au Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que moi je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père, et je suis venu dans le monde, et de nouveau je laisse le monde, et je m'en vais au Père. » Ses disciples lui disent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu ne dis aucune similitude. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne te fasse des demandes. À cause de cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ? Voici, l'heure vient, et elle est venue, que vous serez dispersés chacun chez soi, et que vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Fin de citation. Le Seigneur a terminé la partie de son discours qui dévoile aux disciples la grande lumière qui, en conséquence de la venue du Saint-Esprit, illuminera leurs entendements. Maintenant, comme les entretiens touchent à leur fin, il ne parle plus de l'Esprit, mais de ce jour, le jour nouveau qui allait poindre, avec la révélation nouvelle qu'il donnerait de lui-même en tant que ressuscité, versets 16 à 22, le caractère nouveau des relations qu'ils auraient avec le Père, versets 23 et 24, et la forme nouvelle dans laquelle le Seigneur communiquerait avec eux, versets 25 à 28. Il convient de rappeler que les deux événements qui distinguent ce jour sont le départ de Christ pour être avec le Père et la venue de l'Esprit pour demeurer dans les croyants. Dans la portion du discours qui vient de se terminer, ce jour est considéré en rapport avec la venue du Consolateur. Dans la partie qui va suivre, il est vu en relation avec Christ s'en allant auprès du Père et avec tout ce qu'implique sa présence auprès du Père. Ces déclarations merveilleuses concernant les gloires à venir qui seraient révélées dans la puissance de l'Esprit ont été placées devant les disciples, mais, comme les derniers moments avec eux s'écoulent, ils sont laissés avec Jésus lui-même en tant qu'objet de leurs affections. Certes, l'Esprit veut susciter ses affections, mais jamais il n'en est, comme Jésus, l'objet. Aussi le Seigneur occupe-t-il leur cœur de lui-même en disant « Un peu de temps et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez. » Par ces paroles, le Seigneur non seulement les occupe de lui, mais il fait allusion aux grands événements qui étaient si proches et prépare leur cœur au changement qui s'ensuivrait. Les paroles du Seigneur suscitent parmi les disciples des questions angoissées, montrant que chaque déclaration était un mystère pour eux. Remarquons qu'à mesure que les discours progressent, les disciples deviennent plus silencieux. Cinq d'entre eux ont parlé à diverses reprises, mais depuis qu'ils ont quitté la chambre haute, nulle autre voix que celle du Seigneur ne s'est fait entendre. Tandis que les grandes vérités concernant la venue de l'Esprit étaient développées, ils avaient écouté en silence ce qui était tellement au-delà de leur compréhension. Maintenant que le Seigneur parle de nouveau de lui, leurs cœurs sont anxieux de connaître la signification de ses paroles. Mais, même alors, ils parlent entre eux-mêmes hésitant à faire part de leurs difficultés au Seigneur. Le Seigneur prévient leur désir de l'interroger sur la signification de ses paroles et non seulement jette davantage de lumière sur ce qu'il a dit, mais leur révèle aussi combien leur cœur serait touché, tant par la tristesse que par la joie, lors des grands événements tout proches. Dans sa déclaration, le Seigneur mentionne clairement deux courts intervalles de temps et donne à entendre que bientôt les disciples ne le verraient plus et qu'ensuite ils le reverraient. À la lumière des événements qui suivent, ne pouvons-nous pas dire que ces paroles indiquent qu'il restait, à ce moment, seulement quelques brèves heures avant que le Seigneur ne quitte ses disciples, pour disparaître de la vue des hommes en entrant dans les ténèbres de la croix et du tombeau. Puis, après un second un peu de temps, les disciples verraient le Seigneur, toutefois non pas comme auparavant dans les jours de sa chair, mais en résurrection. S'ils ne devaient plus le voir comme dans les jours de son humiliation, ils le verraient pour toujours dans sa condition nouvelle et glorieuse de résurrection, au-delà de la mort et du tombeau. Ce serait néanmoins le même Jésus qui avait habité au milieu d'eux, qui avait supporté leur faiblesse, soutenu leur foi et gagné leur cœur, qui reviendrait au milieu d'eux et dirait « Voyez mes pieds et mes mains, que c'est moi-même. » Le Seigneur dit en outre à ses disciples comment ces événements successifs les affecteraient en tristesse et en joie. Le court moment pendant lequel ils ne le verraient pas serait pour eux un moment de tristesse accablante. Un temps de pleurs et de lamentations sur celui qui était mort et dont le tombeau représentait la fin de toutes leurs espérances terrestres. Le monde, certes, se réjouirait, pensant avoir triomphé de celui dont la présence mettait à nu la méchanceté de ses agissements. Mais une fois ce court moment passé, leur tristesse serait changée en joie. Pour présenter au cœur des disciples ces événements à venir, le Seigneur prend l'illustration de la femme donnant le jour à son enfant. La tristesse subite, l'angoisse changée en joie et la naissance de l'enfant représente exactement la tristesse soudaine qui envahirait les disciples lorsque le Seigneur serait entré dans la mort, puis le passage rapide de l'angoisse à la joie lorsque de nouveau il voit le Seigneur ressuscité comme le premier-né d'entre les morts. En faisant l'application de cette illustration, le Seigneur développe ses paroles. Il avait déjà dit « Vous me verrez ». Il ajoute maintenant « Je vous reverrai ». Le monde ne le verrait pas, et il ne reverrait pas non plus le monde. C'est vers les siens qu'il reviendrait. Et tel fut bien le cas, comme nous le lisons plus tard, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit « Paix vous soit ». Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Chapitre 20, versets 19 et 20. De plus, ce revoir dont le Seigneur parle ne peut guère être limité aux brèves visites des 40 jours après la résurrection. On a dit à juste titre, « Le Seigneur ressuscité et vivant s'est montré à la vue de leurs yeux, afin de demeurer devant la vue de leur foi, non comme un souvenir, mais comme une présence. » Et encore, c'était une vision qui ne pourrait jamais être effacée ni obscurcie, mais qui, au contraire, gagnait en netteté à mesure qu'elle devenait plus spirituelle. Pendant tout le temps de son absence, alors que nous sommes encore sur la terre et que lui est dans la gloire, les paroles du Seigneur resteront toujours vraies. « Vous me verrez et je vous verrai. » Les yeux attachés sur cette gloire, Étienne peut dire « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare « Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. » C'est cette vision spéciale de Christ qui assure la joie du croyant. Le Seigneur vivant est la joie des siens. Et parce que sa vie est éternelle, leur joie est permanente et sûre. Aussi le Seigneur peut-il dire « Et personne ne vous ôte votre joie. » Le Seigneur a parlé de la nouvelle révélation de lui-même dans le jour nouveau qui allait poindre tout prochainement. Il présente maintenant les relations d'un caractère nouveau correspondant à ce jour nouveau. En ce jour-là, dit le Seigneur, vous ne me ferez pas de demande. Parole qui n'implique pas que nous ne devions jamais nous adresser au Seigneur, mais plutôt que nous avons accès directement au Père. Marthe n'avait pas le moindre sentiment de parler directement au Père lorsqu'elle disait « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Chapitre 11, verset 22. Nous n'avons pas maintenant affaire au Seigneur afin qu'il aille au Père pour nous, mais nous avons le privilège de nous adresser directement au Père au nom de Christ. Jusqu'alors, les disciples n'avaient rien demandé en son nom. En ce jour-là, ils demanderaient en son nom, et le Père donnerait en son nom, afin que leur joie soit accomplie. En recourant aux ressources inépuisables qui leur étaient ainsi ouvertes, ils trouveraient plénitude de joie. En outre, du côté du Seigneur, ses communications prendraient un caractère nouveau. Jusqu'ici, une grande partie de son enseignement avait été donnée sous forme de paraboles ou d'allégories. Dans le jour qui allait poindre, il parlerait ouvertement du Père. Il en fut ainsi après sa résurrection, lorsqu'il envoya un message aux disciples disant clairement « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Bien que le Seigneur veuille nous parler ouvertement du Père, il ne lui sera pas nécessaire de faire des demandes au Père pour nous, comme si le Père ne connaissait pas nos besoins, ou que nous n'ayons pas libre accès auprès du Père, car, dit le Seigneur, le Père lui-même vous aime. Le Père porte le plus grand intérêt aux disciples et les aime, parce qu'ils ont aimé Christ et ont cru qu'il était sorti d'auprès de Dieu. Le Seigneur termine cette partie de l'entretien en affirmant les grandes vérités sur lesquelles repose tout l'édifice du christianisme. Je suis sorti d'auprès du Père, et je suis venu dans le monde, et de nouveau je laisse le monde et je m'en vais au Père. Hélas, la chrétienté professante, tout en affectant faire grand cas de la vie parfaite du Seigneur, est en train d'abandonner rapidement les saintes exigences que comporte cette grande affirmation. Cette déclaration de son origine divine, de sa mission dans le monde et de son retour auprès du Père, termine de façon appropriée l'instruction contenue dans cet entretien. Les derniers versets sont moins une instruction qu'une parole finale d'avertissement quant à la faiblesse des disciples, suivie d'une déclaration qui révèle les sentiments du cœur du Seigneur et de la dernière parole d'encouragement. Devant cette affirmation claire de la vérité, les disciples peuvent dire « Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu ne dis aucune similitude. » La vérité qu'ils n'avaient discernée qu'obscurément se précise et se clarifie par les paroles ouvertes du Seigneur. Et pourtant, combien peu ils comprenaient au travers de quelle mort le Seigneur allait retourner au Père. Aussi le Seigneur peut-il dire « Vous croyez maintenant ?» Certes, ils croyaient, mais comme nous-mêmes trop souvent, ils n'étaient guère conscients de leur propre faiblesse. Le Seigneur doit les avertir que l'heure venait, et qu'elle était venue, où tous les disciples seraient dispersés, chacun chez soi, et où celui en qui ils venaient de professer croire serait laissé seul. Si toutefois un moment vient où ceux qui ont été ses compagnons pendant sa vie, qui l'ont aimé et suivi, ne pensent plus qu'à eux-mêmes et s'éloignent de lui à l'heure de son épreuve, il ne sera pas seul, car, comme dit le Seigneur, le Père est avec moi. Il ne dit pas « Le Père sera avec moi, si vrai cela soit-il », mais « Le Père est avec moi ». Comme autrefois dans l'épisode qui n'était qu'une ombre de cette scène tellement plus solennelle, nous lisons au sujet d'Abraham et d'Isaac, alors qu'ils se dirigeaient vers la montagne de Morija, « Ils allaient les deux ensemble ». Genèse 22, verset 6. Ainsi maintenant, le Père et le Fils sont ensemble, à l'approche du sacrifice suprême. Mais si le Seigneur veut avertir les disciples de leur faiblesse, il ne les laisse pas sans une dernière parole de réconfort et d'encouragement. Quelles que soient les défaillances qu'ils aient à déplorer en eux-mêmes, ou les épreuves qu'ils puissent avoir à rencontrer dans le monde, en Christ, ils auraient la paix. Bien des choses, tant en eux-mêmes que dans le monde, seraient de nature à les troubler. Mais en Christ, ils auraient une ressource infaillible, quelqu'un en qui leur cœur pourrait se reposer dans une paix parfaite. Le monde pouvait certes vaincre les disciples, comme ils allaient bientôt l'éprouver, mais Christ a vaincu le monde. Comme les disciples, nous pouvons avoir bon courage, car celui qui nous aime, qui vit pour nous, qui vient pour nous, celui qui est avec nous, est le vainqueur du monde. Ainsi, ces précieux entretiens ne se terminent pas sans nous laisser une parole d'encouragement qui, nous élevant au-dessus de nos manquements, nous conduit dans la contemplation de la victoire du Seigneur.